Excellent réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il ne lésine pas sur les moyens pour défendre son mur anti-immigration. Hier, Donald Trump s'est rendu à la frontière mexicaine pour brandir une fois encore ses arguments sécuritaires, entouré de partisans. Pendant ce temps, le blocage des administrations continue et pourrait devenir le plus long de l'histoire des États-Unis.
Joseph Kabila aurait-il réussi à diviser l'opposition de son pays alors même qu'il a lâché le pouvoir? C'est la question qui se pose après les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Nous irons sur place à Goma.
En France, un nouveau samedi de manifestation de gilets jaunes se prépare et c'est à Bourges que se sont donné rendez-vous certaines figures du mouvement. Pendant ce temps-là, le gouvernement reçoit syndicats et patronats à l'Élysée pour tenter de planifier le grand débat national. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, la question du jour, Anne-Laure, faut-il revoir les salaires des hauts fonctionnaires? On posera la question à Vincent Jauvert. Il est journaliste et grand reporter à l'Obs.
Son adresse aux Américains n'a pas suffi. Hier, Donald Trump s'est donc rendu au Texas, là où il rêve de voir s'ériger son mur à la frontière mexicaine sur les bords du Rio Grande. Ce vendredi va marquer le 21e jour du shutdown, ce blocage de l'administration américaine causé par les désaccords entre démocrates et républicains sur ce mur. Justement, un blocage qui, s'il continue au-delà de ce soir minuit, deviendra le plus long de l'histoire du pays. Au Texas, le président américain a donc encore une fois brandi ses arguments sécuritaires contre l'immigration illégale. Le reportage sur place à McAllen de notre correspondant Grégory Phillips.
Sur les bords du Rio Grande, entouré d'une dizaine de gardes frontières, Donald Trump a la photo qu'il voulait. Un président sur le terrain qui parle immigration illégale et sécurité. Et surtout qui répète encore une fois ce message. On a besoin d'une barrière, on a besoin d'un mur, qu'il soit en acier ou en béton, peu importe. Mais on en a besoin. Les résultats seront incroyables si on arrive à faire ce mur. Et on va y arriver, d'une manière ou d'une autre. On va le faire. Pendant ce temps-là, à proximité de l'aéroport de McAllen, les supporters de Trump encouragent le président dans ce projet. N'abandonne pas, Trump, dit Rose. On te soutient, reste fort. Ne cède pas face aux démocrates, Pelosi et Schumer. Pourquoi le mur est important pour nous? Parce que cette frontière, elle passe dans notre jardin. De l'autre côté de l'avenue, ce sont les anti-murs qui manifestent. Vous savez, dit Melinda, avec ce shutdown, Trump place beaucoup de gens en difficulté, les fonctionnaires. Et puis en réalité, la grande majorité des Américains ne veut pas de ce mur. Il devrait les écouter. En attendant, Donald Trump envisage d'entamer une procédure d'urgence qui pourrait permettre de contourner le Congrès et de construire ce mur sans le feu vert des parlementaires. La Maison-Blanche a demandé à l'armée de voir si elle pouvait envisager de lancer les travaux dans 45 jours.
Et ce vendredi, près d'un million d'employés fédéraux américains ne recevront pas leur premier salaire de l'année. Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a par ailleurs mis en garde contre une paralysie prolongée du gouvernement fédéral. Il juge qu'elle aurait un effet non négligeable sur l'économie du pays. En République démocratique du Congo, est-ce à une véritable transition démocratique qu'on a assisté hier après la proclamation d'un nouveau président issu de l'opposition? Est déjà contestée. Sitôt après la publication des résultats, donnant une très courte avance à l'opposant historique Félix Tshisekedi, un autre opposant, Martin Fayoulou, donné lui vainqueur par une autre commission électorale, celle des évêques, a dénoncé un putsch électoral. La France et la Belgique ont émis des doutes quant à la sincérité des résultats. Bref, la joie des électeurs qui ont célébré la fin de l'ère Kabila a été de courte durée. À Goma, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, bastion du candidat Martin Fayoulou, le reportage d'Anthony Fouchard.
Les scènes de liesse au beau milieu de la nuit n'auront duré que quelques heures. Ici, on a fêté avant tout la défaite du candidat de la majorité présidentielle et l'on veut croire à une alternance politique.
Ce que je peux vous dire est que nous venons vraiment de très 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 loin. Ça fait 17 ans que nous sommes en train de lutter afin que ces régimes changent. Malheureusement, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, nous venons maintenant de réussir de changer ces régimes qui nous a fait tant souffrir.
Pas sûr pour autant que Félix Tshisekedi, désigné vainqueur provisoire, incarne le changement tant attendu. À Goma, comme quasiment partout dans le pays, c'est Martin Fayoulou qui est arrivé largement en tête. Mais pour cet habitant, ce n'est pas un problème.
On attendait seulement qu'il y ait quelqu'un de l'opposition qui va gérer le pays. Je pense que le problème serait si Chadaris serait proclamé. C'est là où il y aurait un grand problème. Celui qui vient de passer, c'est quelqu'un de l'opposition. Laissons-lui travailler, nous ne voulons plus de difficultés. C'est le moment que les peuples congolais s'unissent, les mains dans la main.
Avec Félix Tshisekedi, c'est un opposant qui gagne, mais à quel prix ? Joseph Kabila a réussi à monter les deux oppositions les unes contre les autres. Martin Fayoulou devrait contester les résultats dans les prochains jours.
Anthony Fouchard. Et puis on vient de l'apprendre, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, a fait l'objet ce matin de deux nouvelles inculpations par la justice japonaise. Abus de confiance aggravé et minoration de ses revenus dans des rapports boursiers de Nissan entre 2015 et 2018. Il avait déjà été mis en examen le 10 décembre pour les mêmes faits, mais sur les années précédentes.
Malgré les messages de fermeté du gouvernement et la préparation du grand débat national, l'acte 9 des Gilets jaunes se prépare pour demain samedi, Anne-Laure.
Un acte neuf qui sera beaucoup plus encadré que la semaine dernière, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe en début de semaine. Des rassemblements sont programmés dans plusieurs villes et dans certaines, les commerçants notamment appellent au calme. Comme à Bordeaux, pour ce qui est du gros de la mobilisation, les organisateurs hésitent entre deux endroits, Paris ou Bourges. Deux des figures du mouvement appellent en effet à se rassembler dans la préfecture du Cher, une ville centrale selon eux. Et une mairie centriste qui, elle, redoute les débordements. Rosalie Lafarge.
Il ne s'y attendait pas, le maire de Bourges. Mais une fois passée la surprise, est venue s'installer l'inquiétude. Sa ville doit se préparer à accueillir entre 2 et 3 000 personnes, a priori. Alors Pascal Blanc prend ses précautions.
J'ai pris la décision de fermer un certain nombre de bâtiments publics. Je pense à l'hôtel de ville, je pense aux différentes mairies annexes de la ville, fermer les parkings souterrains, sécuriser les chantiers. On a démonté un certain nombre de mobiliers urbains pour deux raisons. La première, c'est qu'ils puissent se servir éventuellement de projectiles. La deuxième raison, c'est que s'il y a des dégradations, je pense aux ordinateurs, par exemple, on vient de démonter tous les ordinateurs. Un ordinateur, c'est 30 000 euros. Donc, s'il faut les remplacer ou les réparer, ça sera des crédits qu'on aurait plutôt destinés à d'autres choses plus positives.
Pour tenter d'assurer au mieux la sécurité des habitants et des manifestants, des renforts policiers ont été demandés. Des forces supplémentaires sont également mises à contribution à l'hôpital et chez les pompiers. Le maire veut mettre toutes les chances de son côté parce qu'il craint des débordements.
C'est ce qu'on redoute, évidemment. Enfin, quand on voit les images de ces dernières semaines, en particulier le week-end dernier, c'est pas parce qu'on est une ville de province de 68 000 habitants que rien ne va se passer. Je pense qu'on est à l'abri de rien. Faut pas non plus développer une psychose, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on ne me reproche pas, et ça serait logique qu'on puisse me reprocher qu'on n'ait pas fait le nécessaire pour limiter les risques de débordement, sachant que très clairement, le risque zéro n'existe pas. Je crois qu'il faut en être bien conscient.
Et parce qu'il le voit circuler sur les réseaux sociaux comme l'une des raisons d'aller manifester dans sa ville, le premier édile tient à rappeler une chose qui a son importance. Non, Bourges n'est pas le pays des bourgeois. Ses habitants, on les appelle les berruyers et les berruyères.
Et puis on verra demain si l'annonce de l'ouverture du grand débat national aura apaisé les esprits. En attendant, le gouvernement travaille à la rendre un peu plus concrète, cette concertation, appelée à l'aide les organisations syndicales et patronales, convoquées aujourd'hui à Matignon pour discuter des modalités. Deux d'entre elles ont déjà décliné l'invitation, signe que malgré la crise, la confiance est loin d'être revenue entre l'exécutif et les corps intermédiaires. Sarah Lemoine.
Décidément, le dialogue est tout sauf simple entre l'exécutif et les organisations syndicales et patronales. Il y a un mois, Emmanuel Macron les avait réunis à l'Élysée pour écouter leurs propositions face à la crise des Gilets jaunes. Un geste fort pour ses partenaires sociaux qui, depuis le début du quinquennat, se sentent délaissés. Mais depuis, plus rien. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a révélé dimanche dernier n'avoir plus de contact avec le président depuis ce mini-sommet. Avant de conclure, si le gouvernement considère qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l'œil. Message entendu donc avec cette réunion ce matin à Matignon, mais deux syndicats ont déjà décliné, Solidaires qui dénonce un exercice de communication et la CGT. François Omeril de la CGC s'y rend tout en se disant un peu fatigué par ce théâtre permanent. Yves Verrier de Force Ouvrière ne veut pas être instrumentalisé. L'UDP qui représente les artisans et les commerçants souhaite organiser ses propres débats sur le territoire. Quant à la CFDT, elle remet sur la table son idée d'un Grenelle du pouvoir de vivre.
Sarah Lemoine. En attendant, Édouard Philippe était en Allemagne hier et c'est devant un autre public, 600 chefs d'entreprise allemands qu'il a défendu la politique de réforme mise en place en France, sans faire l'impasse évidemment sur ce mouvement des Gilets jaunes, mais sans non plus se remettre en cause. Le reportage de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
La colère des Gilets jaunes est pour Édouard Philippe une réplique de la grande crise financière de 2008.
Je ne crois pas, mesdames et messieurs, que cette colère soit un produit purement français.
Elle n'est pas sans lien, dit-il, avec les populistes en Italie, Trump aux États-Unis ou le Brexit. Le Premier ministre cherche devant ses chefs d'entreprise allemands quelques excuses au climat qui règne en France.
Et vous avez vu depuis quelques mois des images qui vous paraissent choquantes, elles le sont.
Alors il défend les réformes engagées, on croirait entendre un général d'armée.
Nous voulons frapper vite, frapper fort, agir de manière profonde, dans une logique de mouvement et jamais dans une logique d'immobilité.
Il rappelle le conseil donné par la chancelière et le président allemand lors de sa visite en 2017 à Berlin.
Ils m'ont dit, si vous voulez faire des réformes, ça n'était pas quand on les faisait que c'était difficile. Que c'était 18 mois après avoir commencé que c'était difficile. Et il n'avait pas tort.
C'est le seul petit moment où il reconnaît la difficulté. Un peu plus tôt, de retour dans son ancien lycée à Bonn, face à de jeunes Allemands, les mea culpa étaient plus nombreux. Ici, ils sont mis bout à bout.
On ne fait pas toujours bien, c'est pas simple. C'est difficile. Parfois on se trompe.
Malgré cela, l'ancien élève Philippe, 30 ans plus tard, chef de gouvernement dans la tempête, se décerne une bonne note et cette appréciation.
Nous sommes sur la bonne voie.
Ludovic Piétenu. Jean-Claude Roman va-t-il sortir de prison ? Il en a fait la demande en tout cas et c'est aujourd'hui que la justice doit déterminer si oui ou non il pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle. Jean-Claude Roman avait tué sa femme, ses parents et ses deux enfants en 1993 après une vie de mensonge où il avait fait croire qu'il était médecin. Condamné en 1996 à la perpétuité, il est libérable depuis 2015. Le ministère public a rejeté sa requête. Son avocat lui se dit confiant. L'histoire de cet homme et de son assassinat avait fasciné le public et l'écrivain Emmanuel Carrère entre autres, et qui en avait tiré un roman, L'Adversaire, adapté au cinéma en 2002. Le temps de ce vendredi, dégelé presque partout ce matin, de 0 à moins 7 degrés dans le Massif Central notamment. Ça se rafraîchit cet après-midi également, compté de moins 1 à 6 degrés du nord-est au sud-ouest du pays, 3 à 10 degrés ailleurs, jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée. Le ciel sera très nuageux, voire pluvieux sur une large moitié nord, de la neige à prévoir dans le nord-est. Quelques éclaircies, puis à nouveau des nuages du sud-ouest aux Alpes. Le soleil, lui, sera généreux dans le sud-est.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. 7h12 sur France Culture. Faut-il revoir les salaires des hauts fonctionnaires ?